C'était Billy the Kick, Ma Plante. Retour au direct donc avec Jeff, avec qui on va passer une bonne partie de la soirée en compagnie, en sa compagnie, la petite heure qui nous est impartie pour Cannabis Circus. Donc voilà, bah, je te laisse un peu la parole. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui t'est arrivé au mois d'août? Donc voilà, en fait,
je suis parti en Hollande chercher mon.
Parle bien devant le micro, s'il te plaît. C'est vachement important. Mais redresse-le bien, mets-le bien, voilà, comme ça, pour qu'on t'entende bien. Sinon, malheureusement, ça sort pas super bien. Ou prends-le dans ta main.
Ouais.
Voilà. Et parle bien comme ça, ouais. Voilà. Alors explique-nous, en fait, bon, tous les 3 mois, voilà. Tu pars en Hollande, en fait.
Chercher mon médoc, quoi, Bédrocan.
Voilà.
Donc je suis revenu le 20 août, je rentrais, en fait, et je me suis fait choper à Nancy par les douanes.
D'accord.
Donc je leur ai dit que j'avais une ordonnance, une facture et mon médicament, quoi. Donc ils ont voulu voir... Donc comme ils ont vu que c'était de la beuh, en fait, ils trouvaient ça bizarre, donc j'ai eu droit à la fouille, donc du véhicule et tout. Donc,
et donc vous étiez en voiture alors?
Ouais, en voiture, ouais, moi je monte en voiture. Ouais.
C'est donc dans ta voiture à toi?
Ouais, dans ma
d'accord,
voiture.
D'accord, donc t'étais tout seul dans ta
voilà,
voiture
tout
en fait.
Seul, ouais. Ouais, j'étais tout seul. Ouais. Et donc ils m'ont confisqué le produit, moi en panique j'en ai chialé quoi. J'en ai chialé parce que moi j'imaginais dans 4 jours comment j'allais être. Quoi. Et c'est la cata là, depuis le 20 août c'est la cata quoi. Donc je fume de la merde quoi. Voilà.
Ouais, un cannabis en fait qui n'est pas adapté
voilà,
à la pathologie quoi.
Cannabis de quartier quoi, voilà, ouais. De la merde. Donc ouais, ça me soulage un peu, mais c'est pas mon médoc. Quoi.
Alors du coup, voilà, j'en profite, j'ouvre une petite parenthèse. Hein, ce qui est important d'expliquer aux auditeurs, auditrices, c'est qu'en fait, ce Bédrocan, ce cannabis thérapeutique, sa spécificité à ce cannabis, c'est qu'en fait, il est assez peu dosé en THC, mais
voilà.
Par contre, il est assez fortement dosé en CBD.
Voilà.
Et le CBD, c'est un cannabinoïde qui s'appelle le cannabidiol et qui convient particulièrement... aux personnes bah, comme toi qui peuvent avoir certaines affections, voilà, douleurs. Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous répéter justement, nous réexpliquer quel est ce dont tu souffres en
voilà.
Fait, et comment ça s'appelle
moi, j'ai
scientifiquement
une névralgie. Donc, on m'a toujours dit que c'était équivalent à une sclérose en plaques. Donc, c'est des douleurs musculaires, quoi, des brûlures. Comment dire? C'est comme si on vous avait roulé dessus, quoi. Voilà.
Mais ça te fait mal où, à quel endroit particulièrement en fait
dans les mains, des fourmis, ouais. Dans les bras, dans les jambes. Je fais les abdos tout seul, ou mal à la tête, ou je mange pas. Voilà, je dors plus, je mange pas, ou voilà. C'est, je suis redevenu en enfer là. C'est.
Ouais. Et je crois que pour qu'on comprenne bien, parce que c'est quand même douloureux, tu parles de fourmis dans les mains, dans les jambes, je pense que pour plein de gens, il y a des gens qui disent ouais, bon. Mais aussi, par exemple, la sensation de recevoir des décharges électriques voilà. Dans les testicules.
Voilà, j'ai une douleur testicule droit où c'est comme si on mettait un coup de pied dedans, quoi.
Voilà. Ouais, voilà. Qu'on comprenne bien.
Voilà,
quelque chose de relatif, ouais, carrément insupportable. Quoi.
Voilà, c'est chaud. Là, je la sens. J'ai fumé. Elle est supportable, je dirais.
À peu
mais
près.
Mais je la sens. Voilà.
Ouais.
Donc, le jour où je me suis fait choper, les douaniers m'ont interrogé pour savoir où j'avais eu l'argent, comment j'ai eu cette ordonnance. Donc, ils ont appelé mon médecin à Strasbourg.
Ouais.
Donc, elle leur a dit que je m'inquiète pas et que j'aurais un dérivé de bédrocan. Donc, moi, sur le moment, quand le douanier m'a dit ça, pour moi, j'allais être soulagé. Donc, tant mieux. Mais le lendemain, j'ai appelé mon médecin et il n'y a pas de dérivé, quoi. Donc, elle m'a refait une ordonnance et je vais remonter là-haut. Je vais aller vivre dans ma voiture là-haut. Voilà.
Ouais.
J'ai pas le choix.
Ouais. Parce que, alors déjà, en fait, ce qu'on peut expliquer, c'est que, ben voilà, comme tu disais, le médecin t'a dit qu'il n'y avait pas de substitut à ce que tu. Au bedrocan, en fait. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de dérivé.
Au douanier, elle a dit qu'il y avait un substitut.
Voilà. Alors, où elle a dit ça au douanier? Enfin, elle t'a dit qu'elle avait dit ça au douanier?
Ah, les douaniers me l'ont dit et elle me l'a répété.
Ouais,
derrière.
Okay, ouais.
Moi, je l'ai appelé pour savoir ce qu'elle avait vraiment bien dit, quoi.
Ouais.
Voilà.
D'accord. Voilà. Donc. Ce qu'on peut expliquer aussi quand même aux auditeurs, aux auditrices, c'est que ce dont tu souffres, en fait, ça te fait souffrir depuis 2001.
Voilà.
Donc ça fait 14 ans.
14 ans, ouais.
Voilà. Pendant 14 ans, t'as fait tout un tas d'examens, on t'a filé tout un tas de médicaments.
Ouais,
c'était
plus antidépresseur, ouais. Pour que je me taise, quoi.
Ouais, ok.
Je dirais, voilà.
Et... Mais bon, tout ce qu'on t'a donné, ça s'est révélé complètement inefficace.
Ouais, ça sert à rien.
Voilà. Et du coup, tout ce qui t'arrive là, c'est quand même vachement handicapant et invalidant.
Bah ouais,
donc tu peux plus travailler.
Non, je peux plus travailler.
Donc t'as pas d'argent, quoi.
Non, j'ai pas d'argent.
Donc voilà. Et en fait, ce médicament, ça coûte.
Je ramenais 90 grammes, 700 euros.
Voilà. À chaque fois, faut que tu dépenses 700 euros.
Voilà, 700 euros, ça me fait 6 mois, quoi.
Ouais. Ok.
Voilà.
Donc c'est quand même une sacrée somme.
Voilà. Donc. Et quand les douaniers m'ont arrêté, moi quand je suis sorti de la pharmacie à Masbrac, j'avais une petite boîte et j'ai mis 3 gratons dedans. Et quand ils m'ont serré les douaniers, ben les 3 gratons, ils me les ont laissés, quoi. Voilà, c'était cool.
Voilà, ils t'ont laissé
ils m'ont
un
laissé...
bout de comprimé, en fait.
Voilà, j'étais un peu, ouais, après je veux dire...
ouais.
Voilà. Mais pour moi, voilà, j'allais me soulager encore, je sais pas, une journée et demie, je dirais. Voilà. Donc, merci et pas merci, quoi.
Ouais.
Voilà.
Alors, du coup, là, t'as plus ton médicament.
Ah non, j'ai plus rien, là.
Et donc, tu repars en Hollande?
Ouais, je repars bientôt, là.
Ouais, à compter du 10-11 octobre.
Ouais.
Et comme on disait, t'as pas beaucoup de ressources, t'as pas vraiment d'argent pour te payer un hébergement, et en plus en Hollande ça coûte super cher.
Ouais.
Donc voilà, bon, le cirque que tu as rencontré il y a quelques mois t'apporte son soutien de la manière dont il peut.
Alors, ouais, c'est cool.
Le cirque essaye de t'aider à médiatiser un peu cette affaire et à le faire connaître, en fait. Et toi-même, avec le cirque, en fait, vous avez créé la possibilité de t'aider, de te soutenir financièrement. Et c'est possible donc de t'aider financièrement en ligne sur Internet.
Voilà.
Il y a un site Internet qui s'appelle lepotcommun.fr. Donc je vais vous donner l'adresse. Si vous souhaitez soutenir notre ami Jeff... Alors c'est le pot commun tout attaché, le pot LEPOT commun CO2MUN tout attaché .fr /pot comme un pot /SICM55R5. Là, en faisant comme ça, vous allez tomber directement sur la page de soutien à Jeff avec un poème très sympa d'ailleurs,
cool.
Que vous pourrez lire et qui vous fera méditer. Donc voilà, une possibilité. Sinon, vous pouvez peut-être plus simplement vous rendre d'abord sur le site internet du Cirque Lyon, www.cirque-lyon.fr, dans la rubrique Nouvelles, et vous pourrez lire la lettre, en fait, que tu as écrite.
Voilà.
et qui explique ta démarche. Enfin, ouais, qui explique ouais. ce qui t'arrive et ta démarche, c'est-à-dire ce que tu vas faire, que tu vas aller.
Ouais, je vais faire bouger.
Voilà, en Hollande.
Ouais, je vais bouger et je vais faire bouger ça en France. C'est pas normal que je souffre et que j'ai pas le droit de me soulager, quoi. Alors que ça marche.
Ouais.
Voilà, j'ai eu de avril à août, hein, j'ai eu 5 mois de vie.
Ouais, ouais.
Sur 14 ans, quoi. Donc, non, y a rien qui m'arrête, là. Là, je suis déterminé, je lâche rien. C'est clair.
Ouais, ouais, on te comprend complètement et en plus c'est hyper authentique tout ce que tu racontes et ce que tu vis, hein, donc il n'y a absolument aucun souci. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que ton témoignage vaut pour plein de malades
voilà.
qui souffrent aussi en France et qui sont des utilisateurs ou de potentiels utilisateurs voilà. de Bedrocan, en fait, qui peut-être ne peuvent pas en avoir, ne connaissent peut-être même pas
ce que c'est. Je trouve un peu lamentable de montrer ça sur la chaîne parlementaire. Voilà, moi ils m'ont fait rêver. C'est comme s'ils me redonnaient la vie et maintenant ils me le confisquent parce qu'on n'a pas le droit en France, quoi. C'est affolant, quoi.
Ouais, je comprends. Ouais.
Voilà.
Coup, en fait, comment tu vas faire en Hollande? Parce que du coup, tu peux pas te payer un hébergement. Alors effectivement, il y a ce pot commun là qui va te soutenir, mais bon, faut être lucide et on va pas, à mon avis, d'ici le 10 ou le 12, on va pas réussir à réunir cette somme.
Ouais, je suis conscient. Donc là, ouais, j'attends ma pension d'invalidité.
Et tu montes là-haut, quoi.
Et je monte là-haut, voilà.
Voilà. Et du coup, tu vas vivre comment?
Ouais, dans ma voiture, voilà. Ouais. J'aurai pas mal, donc après, le reste.
C'est secondaire, quoi.
Ouais, mais j'ai un compagnon, j'ai mon chien. Donc...
Ok. Ouais.
Ouais. Ça tiendra compagnie, quoi.
Alors, par l'intermédiaire du cirque, on essaye, en fait, de mettre quelques journalistes sur le coup pour faire parler un peu de tout ça. Alors, c'est pas forcément évident de trouver des journalistes qui sont prêts à faire des reportages sur la question.
Ça dérange,
ouais. Effectivement, voilà, c'est un sujet qui est encore épineux en France pour... tabou, épineux, je sais pas comment on peut dire, mais bon, alors... du coup, tu vas monter à Paris là, à la fin de la semaine.
Ouais, samedi. Ouais.
Samedi. Et tu devrais rencontrer un de nos camarades du cirque qui va t'aider à rencontrer peut-être un des journalistes.
Voilà.
C'est ça, ouais.
Ouais. Donc, j'espère. Je croise les doigts, quoi. Que j'ai la parole, quoi. Qu'ils comprennent, quoi.
Ouais. Ouais, surtout que. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'il y a quand même déjà eu un peu des documentaires là-dessus. On en a déjà parlé à cette antenne. C'était un documentaire allemand. Qui a été diffusé sur la chaîne, une chaîne allemande, et c'est un documentaire qui est fait par un magazine qui s'appelle Planetopia. Et voilà, je vous invite, vous pouvez regarder cette vidéo sur le site internet, par l'intermédiaire du site internet du Cirque Lyon. Et on voit une personne qui est concernée par le syndrome Gilles de la Tourette et qui, pareil que toi, va dans une pharmacie en Hollande acheter du Bedrocan et le fait de fumer. De fumer une cigarette, en fait, tout simplement, ça permet à cette personne de parler normalement et d'arrêter de bégayer, de proférer des insultes, en fait.
Moi, je tremblais avant. Maintenant, quand j'ai eu ce médicament, je tremblais plus, quoi.
Ouais.
C'est. Ouais.
Oui, tu m'avais expliqué aussi que, à des moments, quand tu te sens très mal, il faut que tu choisisses dans la journée à prendre une douche ou à manger.
Je dois choisir. Parce que j'économise mon énergie, hein.
Ouais.
Moi, ils m'ont évalué à 58% d'invalidité. Donc, tu regardes bien, il me reste 42% de valide, quoi.
Ouais.
Donc, je fais rien. Je me lève une demi-heure à préparer mon café et à bouger. Voilà, ou à promener mon chien. Je suis fatigué, quoi. Une demi-heure d'effort, il me faut 4 heures de sommeil pour récupérer, je dirais. Voilà.
Ah oui.
Voilà.
D'accord.
Donc j'évite, soit je me lave, soit je mange, soit je choisis. Voilà, je fais avec l'énergie, quoi.
Mmh.
Voilà. Donc c'est pas évident.
Et du coup, j'imagine que quand tu te sens pas bien, tu peux plus travailler, quoi.
Non. Ouais. J'avais eu espoir au mois de septembre.
Oui, parce que quand on s'était vu avant l'été, l'été ou un peu avant l'été,
j'étais trop excité.
T'allais plutôt bien.
Ah, j'étais bien, je me sentais rebossé et tout.
Ouais.
Mais là, non.
Alors, ce qui est encore peut-être plus surprenant pour beaucoup de gens qui connaissent pas tout ça, c'est qu'en fait, toi, t'étais routier.
Voilà.
De profession.
Voilà.
Et que l'utilisation du bedrocan, en fait, a priori, ne poserait pas de problème, parce qu'encore une fois, on répète, dans le bedrocan, il y a très peu de THC.
Donc
très peu d'effets enivrants, en fait.
Voilà.
Et donc, pas d'effets psychotropes qui sont susceptibles de perturber ta conduite.
Voilà.
Donc, a priori, avec du bedrocan, tu peux bosser et conduire sans problème, quoi.
Ouais, je pourrais. Là, je suis pas tranquille. Hein. Quand je conduis, je suis pas tranquille.
Ouais, voilà. Ouais.
C'est clair. Ouais, ça peut être bizarre, quoi.
Ouais, parce que j'évite. Ce que tu fumes, c'est pas ce que tu cherches. Quoi.
Voilà, c'est de la récré, et la récré.
C'est pas ton truc.
Non, ça va pas. Ouais, ça va soulage, pas. Mais il en faut 15, quoi.
Ouais.
Voilà, 15 par jour. Ouais, laisse tomber. Voilà.
Comme quoi, l'interdiction de l'accès à l'usage du cannabis thérapeutique encourage l'accès à du cannabis de mauvaise qualité et donc favorise le marché noir, le trafic. Alors que ces deux cannabis, a priori, qui sont pas les mêmes, quoi.
Non, non, totalement différents. Ouais. Non, non, le bedrocan n'est pas du tout enivrant, quoi.
Ouais.
C'est ça détend le corps. Quoi. Voilà, ça détend tout. Et t'es bien, quoi.
Ouais.
C'est royal.
Bien, on va s'écouter un petit peu de musique et puis on revient tout de suite après pour continuer notre émission et cette interview également. Qui, je l'espère, vous intéresse et qui est intéressante de toute façon. Voilà. Eh bien, à tout de suite.
Of marijuana.
All the
possession of marijuana.
Ouais, c'était le peuple de l'herbe, un peu de d'électro-dub, voilà, lyonnais, la capitale des Gaules, qu'on a pu s'entendre, le peuple de l'herbe, un groupe phare dans la ville, voilà. Donc on va continuer un peu avec notre ami Jeff, voilà. Donc on n'a pas beaucoup parlé de ça, effectivement. Effectivement, t'as expliqué que voilà, t'avais été arrêté par les douanes, voilà. Qui t'avaient laissé trois morceaux et qui t'avaient pris ce qui restait, appelé ton médecin. Mais en fait, du coup, le fait que justement ils te prennent ton médicament, ça implique quoi au niveau de... Enfin, est-ce que t'es poursuivi en fait ?
Non, il n'y a pas de poursuite.
Il n'y a pas de poursuite judiciaire. Aucune.
Voilà, aucune, ni amende.
Ouais, c'est incroyable.
Ça a été confisqué, quoi, voilà. Et voilà, quoi. C'est. Ouais, je peux pas m'expliquer, quoi.
Ouais, tu t'es pas poursuivi par la justice, donc on va pas te donner l'occasion de te défendre. Voilà. C'est vraiment très paradoxal parce que, quand même, ces dernières années, on a vu dans l'actualité en France un certain nombre de personnes qui étaient utilisatrices de cannabis. Dans un objectif thérapeutique, être arrêté, poursuivi, et parfois, même souvent, la justice est parfois humaine, ou on le devient de plus en plus, en tout cas avec ces histoires de maladies de cannabis, où voilà, les personnes ont été relaxées, en fait, ont été condamnées, mais dispensées de peine, en fait, par la justice. Mais toi, en fait, non, tu t'es pas du tout dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'en fait, on t'a contrôlé, on t'a arrêté, on t'a pris ton médicament.
Voilà.
Mais pas de poursuite judiciaire, pas d'amende douanière ou de condamnation pénale.
Je peux pas m'expliquer. Donc, j'attends la prochaine fois. Quoi. Voilà.
T'attends la prochaine fois, arrestation.
La prochaine fois, ils m'emmènent, quoi. Je crois que. Voilà, je demanderai. C'est moi je veux une réponse, je lâche pas. Donc ils vont me le confisquer, tant pis, voilà. Ils vont voir 3-4 jours après comment je suis, quoi. Voilà, ils vont vite comprendre. Donc
c'est-à-dire qu'en fait t'es prêt à rester au poste de douane?
J'ai rien à perdre. Voilà, moi j'ai eu 5 mois de vie là, j'en reveux, je lâche pas. Ouais. C'est clair. Donc après faut faire bouger la loi, je trouve pas ça, c'est lamentable. Voilà, moi je souffre et personne n'entend, on écrit à Valls. Il y a l'histoire de l'hélico que je t'avais raconté, tu te rappelles ? Non ?
Oui, je me rappelle, ouais. Mais bon, enfin...
Ouais, parce que j'étais rentré de Hollande et comme j'avais les verts qui m'ont confisqué mon produit, quoi, voilà. Donc j'ai appelé à l'Élysée... pour savoir c'est quand qu'il me répondait à ma lettre, quoi.
Ouais,
c'est... Voilà, moi, je veux dire, je sais que je vais en chier, j'en chie. Donc, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, on va vous répondre. Et je sais pas, le lendemain, j'ai eu un hélico 25 mètres au-dessus de ma maison, de la gendarmerie. Voilà, ils ont bien observé et ils sont partis, quoi. Moi, je crois, ma douleur est plus forte que ça, quoi.
Ouais.
Voilà. Donc, non, ça m'impressionne pas et je trouve ça minable. Moi, je demande à l'aide et personne n'entend, personne n'écoute. À part vous, quoi. Vous me donnez la parole, c'est cool.
Oui, bien sûr. Cool. Enfin, on essaie de soutenir comme on peut. Après, voilà, le cirque essaie de soutenir toutes les personnes qui ont un peu un souci avec la police, la justice et qui sont utilisatrices de cannabis, que ce soit à des fins récréatives ou thérapeutiques. Effectivement, c'est la moindre des choses quand même qu'on te donne la possibilité de t'exprimer.
Voilà. Je m'amuse pas. Et je veux pas revenir 14 ans en arrière.
Bien sûr.
Voilà. C'est une niette. Ouais. C'est une niette. Bon, j'en profite, je passe un bon anniversaire à mon fils, Greg, le grand, 18 ans.
D'accord.
Ça lui fera plaisir.
Et juste, moi j'ai une question de pure curiosité, j'aurais pu chercher sur internet, mais je ne l'ai pas fait, j'y repense maintenant. Donc tu vas dans quelle ville ?
Masbrac.
Voilà, ça se trouve où en fait ?
C'est 35 km au-dessus de Maastricht.
D'accord, donc c'est pas très loin de la France, en fait, de la frontière
belge,
franco-belge.
Voilà, voilà.
Belge.
Ouais, ouais. Et c'est pas loin de l'Allemagne aussi, hein, Düsseldorf.
Oui, ouais, d'accord. Ouais.
Ouais, ouais.
D'accord. Masbrach.
Ouais, ouais, ça fait 7h30 de route, quoi.
Depuis Lyon.
Ouais.
Ouais, c'est.
Ouais, c'est chaud.
D'accord, mais c'est une torture pour toi de monter là-haut.
Ouais, ouais, ouais. Je me rappelle la première fois où j'étais allé, j'avais fait un covoiturage. Donc j'avais emmené des gens et j'avais pas fumé. Et je suis arrivé là-bas, j'avais l'impression qu'on me plantait de partout.
Ah ouais.
Voilà. C'était. Ah ouais, j'avais hâte de la pharmacie, quoi, vite.
Ouais.
Bientôt, bientôt.
Ouais.
Ouais.
Ouais, ben alors merci à toi. Bon, on n'a pas fini l'émission. On va certainement continuer à discuter un peu comme ça dans le cadre des news de ce lundi. Mais alors justement, pour faire un peu le lien, parce que bon, là dans l'actualité de cette semaine, il n'y a pas énormément d'articles, voire pas d'articles, ou très peu en tout cas, qui parlent du cannabis thérapeutique. Mais voilà, je voulais revenir un peu sur cet article qu'on pouvait trouver sur le site de lamota.org. qui est un site internet espagnol qui alors il faut que je sais pas comment je vais tourner ça, mais qui permet aux internautes de rentrer en contact avec des grainetiers qui vendent des graines de chanvre sur internet, ce qui est complètement illégal en France, on le sait bien. Ou si vous ne le savez pas, en tout cas, c'est le cas.
On peut, non, mais on n'a pas le droit de les planter.
Alors, non, on n'a même pas le droit d'en acheter, normalement. C'est interdit. C'est interdit en France, quoi. Il y a eu jusqu'à il y a quelques années un vide juridique là-dessus. Il y a encore des gens qui pensent qu'il y a toujours ce vide juridique sur les graines du cannabis, mais depuis 2005, normalement, non. Le vide juridique aurait été comblé. Bon, en tout cas, ça a été clarifié, je crois, au niveau européen. Bon. Bon, alors donc, dans cet article qui date de l'année dernière, hein, qui n'est pas tout récent, on nous parle des terpènes. Donc les terpènes, c'est quoi? Ce sont des molécules qui sont produites dans la résine des plantes et qui sont responsables de l'arôme et du goût. Donc l'arôme, l'odeur, hein, aussi. Hein. Donc ce sont des molécules, ces molécules peuvent avoir un but adaptatif, par exemple pour éloigner les prédateurs. Hein, parce que bon, c'est quand même une plante, alors effectivement avec les odeurs qu'elle dégage, les plantes peuvent se défendre et éloigner des parasites, voilà, des prédateurs. Mais aussi pour attirer des pollinisateurs, bah oui, parce qu'il y en a besoin pour se reproduire. Voilà. Cependant, l'aromathérapie utilise aussi les terpènes dans un but thérapeutique, pour réguler l'humeur, résoudre les problèmes de sommeil ou améliorer la santé en général. Alors, à ce jour, on a identifié plus de 100 terpènes différents dans le cannabis. La composition de ces molécules est unique pour chaque variété. C'est pourquoi, par exemple, hein, la variété dite cheese a une forte odeur de fromage, tandis que la blueberry a plutôt une odeur fruitée au goût de myrtille. Donc ça veut dire qu'en fait, les terpènes qui composent les plantes ne sont pas les mêmes, tout simplement. Et ces terpènes, d'ailleurs, ils peuvent même changer au sein d'une même sous-espèce en fonction du climat, de l'âge, de la maturation, du type de sol. En fait, voilà, c'est comme quoi les conditions de culture, en fait, font changer les terpènes dans la plante. Ce qui explique aussi que pour avoir du cannabis thérapeutique avec des taux de dosage en CBD, CBN, THC tout le temps identiques, il faut tout le temps cultiver la plante dans les mêmes conditions, avec le même sol, le même éclairage, etc. etc. Donc, ce n'est pas si évident que ça, à garantir. Voilà. Les terpènes sont sécrétés par les mêmes glandes végétales qui produisent les cannabinoïdes, comme le THC et le CBD. Voilà. Donc, depuis toujours, les chercheurs et les cultivateurs ont plutôt mis l'accent sur ces derniers, donc, sur les terpènes, à cause de leurs propriétés psychoactives pour ce qui concerne le THC. Mais de récentes études ont montré que les terpènes présentent également une action synergétique avec les cannabinoïdes. Ils s'ajustent aux mêmes récepteurs dans notre cerveau et modifient l'effet chimique qu'ils produisent dans notre corps. Voilà, ça marche comme ça en fait. Pour le dire autrement, Il ne suffit pas d'avoir un taux de THC ou de CBD et de CBN. Il faut que les terpènes voilà, puissent être comment dire, suffisamment développés pour permettre aux substances psychoactives du THC, aux substances actives des cannabinoïdes comme le CBD et le CBN, d'avoir un réel effet, en fait, d'avoir une réelle potentialité d'usage. Donc beaucoup de patients consomment du cannabis thérapeutique, qui consomment du cannabis thérapeutique, pardon, ont observé que certaines variétés ont un effet supérieur à d'autres, malgré des niveaux semblables donc de THC et de CBD. La différence se trouve dans la composition des terpènes et dans leur synergie avec les cannabinoïdes. Voilà, ça marche comme ça, quoi. Et donc pour cette raison, les laboratoires s'intéressent de plus en plus à l'étude de ces molécules et, et à leurs effets, et non seulement sur l'arôme, mais aussi le goût, la couleur, mais aussi sur les possibilités et les possibles applications médicales. Voilà. Alors, je vais vous citer un certain nombre de terpènes, comme le myrcène, le pinène, les limonènes, les cariophyllènes, le linalol, également. Donc voilà un peu des terpènes très communs, très connus. Alors par exemple, pour ce qui concerne le terpène myrcène, alors l'arôme, c'est le musc, le tellurique. Les effets sont plutôt relaxants et sédatifs. La valeur médicale, c'est plutôt l'antioxydation, un anticancérigène, un relaxant musculaire, un analgésique, un antidépresseur. On trouve également ces terpènes dans d'autres plantes et fruits que le cannabis, en fait. On trouve par exemple des myrcènes dans la mangue, dans la citronnelle, dans le houblon et le thym. Alors il y a des variétés qui sont fortes en myrcènes, comme la Pure Kush, l'Himalayan Gold ou la White Widow, par exemple. Pour ce qui est de la pinène, là on en trouve pas mal dans les variétés Skunk, Jackerer, Booba Kush ou Super Silver Haze. Alors pour le pinène, la valeur médicale, ça va être plutôt la bronchodilatation, l'action expectorante, anti-inflammatoire et antiseptique locale, par exemple. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire, hein. Il y a pas mal d'autres comment dire. Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a pas mal, mais voilà, pour chaque terpène, que ce soit pinène, limonène, cariophyllène ou linalol, voilà, il y a d'autres valeurs médicales. Pour les cariophyllènes, par exemple, ça a on parle de protection gastrique, d'anti-inflammatoire, aussi indiqué dans les cas d'ulcères et d'arthrite. Voilà, on trouve des cariophyllènes dans le poivre, le clou de girofle et le coton, par exemple. Pour le linalol, on en trouve dans la lavande. Alors, c'est plutôt anxiolytique, antidépressif et anti-épileptique, voire anti-acné. Voilà, donc un peu ce qui se passe au niveau des terpènes. Donc finalement, c'est pas ce qui compte, c'est pas uniquement l'action des cannabinoïdes comme le THC, le CBD ou le CBN, mais c'est en fait leur justement comme on disait plus haut, l'effet, la synergie avec les terpènes qui jouent et qui donnent ces effets positif, on va dire, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Qu'est-ce que, par rapport au bedrocane que toi t'as l'habitude de fumer, parce que tu le fumes, hein,
Ouais, autant dans la bouffe, j'ai essayé, quoi.
Ouais, d'accord, voilà. T'as essayé en préparation,
voilà, au plus rapide, un joint, quoi.
Ouais,
voilà.
Et du coup, toi tu dirais quoi au niveau, par exemple, de l'arôme de ce que tu fumes, ça se rapproche de quoi?
Ah, ça c'est vanille, je crois.
Ah oui, toi tu dirais vanille.
Ouais, vanille ou cannelle, un truc comme ça.
Ou cannelle. Ouais. Je regarde dans ma petite liste, je ne trouve pas, mais il y a peut-être justement d'autres terpènes, hein, parce que là, on n'en a cité que 5, mais il y en a une centaine. Donc,
Ouais, je dirais cannelle. Ouais, c'est pas mal, cannelle.
D'accord. Ouais, c'est intéressant. Voilà, on va s'écouter encore un petit peu de musique et puis on revient tout de suite après pour finir cette émission. À tout de suite. Ah, mon morceau ne démarre pas, alors je vais vous en lancer un autre, je suis désolé. Le CD cafouille, bah c'est pas grave, on va mettre le morceau d'après. À la technique, à tout de suite. reste quelques minutes avant de finir. On va aller faire un petit tour rapidos. Où est-ce qu'on va aller? En Uruguay, tiens. Voilà, en Uruguay avec cet article de ici radio-canada.ca, donc un article qui vient de du Canada, hein, comme son nom l'indique, de Radio-Canada. La réévolution du cannabis en Uruguay 2 ans plus tard. Voilà, alors dans cet article, qu'apprend-on? On apprend que en fait, fumer du cannabis en Uruguay, c'est légal depuis 40 ans. Alors je savais pas, mais par contre, acheter ou vendre du cannabis pouvait envoyer celles et ceux qui s'y intéressent et qui s'y adonnent à la vente et à la culture, pouvait donc les envoyer en prison. Mais maintenant, les Uruguayens peuvent faire pousser jusqu'à 6 plants de cannabis par foyer ou en acheter jusqu'à 40 grammes par mois et par personne dans un club ou une pharmacie. Tout ça sous le contrôle du gouvernement. Et c'est aujourd'hui le seul pays à contrôler la production, la distribution et la consommation de la marijuana. Donc voilà, en Uruguay...
Ils ont de la chance.
Ouais, ils sont...
C'est la liberté.
C'est la liberté, oui, effectivement, on peut voir ça comme ça, mais c'est, je dirais, un encadrement gouvernemental et également. Alors, le père de cette révolution, qui est-ce? Eh bien, c'est José Mujica Cordano, surnommé Pepe Mujica, qui est un homme de gauche, qui est actuellement sénateur, hein. Il a été président de l'Uruguay jusqu'à l'année dernière. La marijuana, ça ne l'intéresse pas spécialement à Mujica. Mais sa démarche est partie de cette simple constatation. Un détenu sur 3 est en prison à cause de la drogue, pour trafic ou pour vol, pour de l'argent, et c'est horrible, dit-il. Il faut reconnaître qu'il y a un marché de la drogue qui est aujourd'hui entre les mains des narcotrafiquants, ce qui est bien pire pour nous que la marijuana elle-même. Donc voilà, l'Uruguay, petit pays ouvert et démocratique, qui a souffert comme d'autres régions d'Amérique latine des ravages du narcotrafic, violence, corruption, blanchiment d'argent... L'objectif étant en fait de détourner l'argent du marché noir, estimé quand même à 30 millions de dollars par an, pour le réinvestir en prévention. Il y aurait 200 000 consommateurs réguliers de cannabis et 20 000 consommateurs problématiques dans ce pays de 3,3 millions d'habitants. Des proportions, dit Jean-Michel Leprince, journaliste d'ici Radio-Canada, des proportions donc comparables à celles du Canada. Donc la Junta Nacional de Drogas, Conseil National des Drogues, relève de la présidence et doit veiller à l'application de la loi, qui est pour les Uruguayens une expérience avant tout. Cette expérience est dirigée par Milton Romani, qui dit « Il est nécessaire d'essayer autre chose, d'autres modèles, de les soumettre à des débats, de les évaluer pour voir s'ils sont plus efficaces tout en respectant les critères du droit et de la santé qui doivent être nos objectifs ultimes ». Voilà. Alors dans cet article, on revient aussi un petit peu sur Pepe Mujica, hein, ce président uruguayen, surnommé le président le plus pauvre du monde, car même lorsqu'il était président, il vivait dans sa modeste demeure, conduisait lui-même sa vieille coccinelle et donnait plus de 80% de son salaire à une œuvre de logement pour les pauvres.
Sympa.
Ah ouais, bon, mais c'est hallucinant, c'est inédit, quoi. Enfin, il n'y a aucun président de la République... En tout cas, à ma connaissance, hein, je peux me tromper, hein, bien évidemment. Mais aucun président de la République, à ma connaissance, ne fait ça. Ou n'a fait ça, je ne sais pas. Alors, c'est un ancien guérillero, Pepe Mujica. Il a quand même passé 14 ans de prison sous une dictature. Et je crois que sur ces 14 ans, il a passé 1 an et demi enfermé dans un puits à plusieurs mètres sous terre. Bon, quand même quelqu'un qui a souffert beaucoup, qui sait ce que c'est que la répression et la criminalisation. Et donc, il faut savoir aussi que M. Mujica a également légalisé l'avortement, le mariage pour tous, et là, dernièrement, donc le cannabis. Donc voilà, il n'a pas fait que légaliser le cannabis, il a également ouvert des possibilités et des droits à d'autres communautés dans son pays, et honnêtement, ben, c'est beau. Quand même, ouais. Voilà.
C'est humain.
Ouais, c'est humain. En plus de ça, bon, j'ai rien contre les gens qui mangent de la viande. Moi-même, j'en mange. Il est végétarien. Il a expliqué que il était contre l'exploitation de l'industrie animale pour la nourriture et que voilà, il fallait arrêter de faire bouffer de la viande à tout le monde sans arrêt et que c'était limite un crime et que voilà, il est devenu végétarien, ce monsieur, ce qui est quand même aussi à souligner. Donc voilà, comme je le disais, l'objectif de cette législation, en fait, c'est de couper l'herbe sous le pied des trafiquants. Alors, il y a un docteur qui est interviewé, le docteur Luis Yarzabal, qui dit il n'y a pas de rapport scientifique qui nous assure de l'existence d'une dépendance. Il n'y a pas non plus de cas connus d'intoxication mortelle au cannabis. La consommation de marijuana, selon lui, augmente depuis l'an 2000. Il n'y a pas eu un impact dans la première année sur la consommation de la marijuana. Il y a quand même eu un comité spécial composé de médecins, de chimistes, de sociologues et de juristes qui a été composé et qui est en contact avec une centaine de chercheurs internationaux, dont des Canadiens. Certains risques sont déjà connus. Alors, on nous parle effectivement de certains effets néfastes sur le système nerveux encore en formation d'adolescents. C'est pour ça que la vente sera interdite aux mineurs, enfin, est interdite, parce que c'est déjà en vigueur. La vente est donc interdite aux mineurs et déconseillée aussi aux femmes enceintes. C'est aussi tolérance zéro pour tout le monde au volant et sur les lieux de travail, comme pour l'alcool. Et comme pour le tabac, c'est interdit à l'intérieur des lieux publics. Une campagne contre les drogues et les alcools est déjà en cours et cette campagne intégrera toutes les drogues, qu'elles soient d'anciennes drogues légales ou nouvellement légales, hein, comme le cannabis. Voilà. Alors après, il ne faut pas croire que cette légalisation soit super populaire en Uruguay. Dans cet article de Radio-Canada, on nous explique que c'est encore pas ça et qu'il y a beaucoup d'Uruguayens qui sont contre cette loi. Il ne faut pas croire non plus que ce soit facile pour des touristes ou des étrangers de pouvoir s'en procurer. A priori, ce n'est pas fait pour ça. Et c'est même dans l'article qu'on nous dit qu'il n'y aura pas de tourisme du cannabis en Uruguay, du moins pas massif. Voilà. Qu'est-ce qu'on pouvait lire aussi dans cet article? Je vous ai à peu près tout dit. Voilà. Ou ce qu'on apprend aussi, c'est que les Nations Unies donc, vont revoir entièrement leur approche face aux drogues et au narcotrafic l'année prochaine, en 2016. Le docteur Luis Yarzabal ajoute « Cela permettra à l'Uruguay de donner des réponses qui ont été posées jusqu'à présent sur le plan des opinions. Maintenant, il y a la possibilité de donner une réponse scientifique à toutes les questions posées en ce qui concerne l'usage de la marijuana. » Mourica rajoute que l'Uruguay est en fait en train d'essayer un nouveau chemin et que cette expérience pourrait servir au reste de l'humanité. Voilà. Nous allons clôturer Cannabis Circus là-dessus, sur l'expérience vertueuse, je l'espère, à plus long terme de l'Uruguay. Jeff, je vais te laisser le mot de la fin. Ouais. Qu'est-ce que tu veux rajouter?
Dépénalisation pour 2017, on va dire.
Dépénalisation pour 2017, mais dépénalisation de tous les usages du cannabis?
Non,
pour le thérapeutique.
Thérapeutique, d'abord.
D'abord thérapeutique, voilà, ouais. Oui, je pense que tu as raison, il faut quand même d'abord penser aux personnes qui souffrent.
Voilà, chaque chose en son temps.
Voilà. Eh bien, Cannabis Circus, c'est fini. Je vous laisse, donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cannabis Circus. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. À la semaine prochaine.